Ouais, à défaut d'être dans la rue demain avec tous les Grecs qui ont appelé à une grève générale, nous sommes en plateau et nous parlons de la Grèce avec Fabien Perrier. Bonsoir Fabien.
Bonsoir.
Puisque en fait tu es journaliste à l'Humanité et tu reviens d'un séjour en Grèce puisque tu es resté 3 semaines là-bas, c'est ça ?
Même un peu plus, je crois.
Donc tu vas pouvoir nous raconter ce qui se passe exactement, puisque ça fait des mois quand même qu'on parle de la faillite de la Grèce.
Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est qu'on pourrait être dans la rue ce soir avec les Grecs, puisqu'il y a organisé, à l'heure qu'il est là, un rassemblement en faveur du peuple grec que Métro Jean Jaurès organisé par le Front de Gauche. Et donc il y a différents intervenants qui vont parler, dont un Grec, Yanis... Yanis.
Papandréou ?
Non. Yanis de Synaspismos, qui est très intéressant et qui décrit...
Et qu'est-ce que Synaspismos ?
Ah, Synaspismos, c'est un des partis de gauche en Grèce. Il faut juste dire tout de suite qu'il y a, selon Manolis Glézos, qui est une grande figure en Grèce, un résistant de la première heure, il y a 49 organisations de gauche aujourd'hui en Grèce. Synaspismos est une composante essentielle, comme le Koukoué, le Parti communiste grec, et 11 de ces organisations, mais pas le Koukoué, sont rassemblées dans une coalition de la gauche radicale, on va dire, qui s'appelle Syriza.
Oui, donc tu veux dire que c'est assez compliqué la gauche en Grèce, et encore plus compliqué qu'en France.
C'est éclaté.
Mais quoi qu'il en soit, ça fait des mois ouais, qu'on parle de la faillite de la Grèce. Et aujourd'hui, il y a eu quand même... on a dit que grâce à l'Union européenne et au FMI, la Grèce était sauvée, ils allaient pouvoir payer leurs dettes. Mais la question aussi est de savoir, c'est comment on en arrive là, finalement ? Comment se fait-il qu'un État puisse être quasi déclaré en faillite ?
Déjà, un État ne fait pas faillite. Ça, c'est une règle. On n'a jamais vu... dans le monde, un État faire faillite. Il a des instruments, l'impôt, par exemple, la gestion de ses biens, la location éventuellement de certains de ses biens immobiliers, pour avoir des rentrées d'argent. Donc, déclarer ou faire croire que l'on déclare un État en faillite, c'est aussi derrière une communication pour mieux faire accepter certaines réformes, bon, que certains trouvent sensées, c'est pas mon cas. En tout cas, comment la Grèce en est arrivée là ? Souvent, on nous parle de tous les agissements de différentes banques qui ont prêté, qui ont masqué aussi les dettes par différentes transactions financières un peu compliquées.
Qui ont surtout conseillé le gouvernement grec.
Qui ont conseillé le gouvernement grec. Mais je pense que la cause principale de l'état du déficit grec... et autre et en fait européen. C'est-à-dire que quand en 2008 la crise a éclaté aux États-Unis, qu'elle a eu des impacts sur les banques en Europe, tous les États se sont endettés pour pouvoir financer les banques, pour éviter les faillites des banques. À ce moment-là, la Commission européenne, qui est la garante des traités européens, qui est donc censée veiller au respect des critères de stabilité, a laissé les États s'endetter. Et puis, 2 ans après, elle rappelle tous les États européens à l'ordre en leur disant « Maintenant, vous respectez les critères qu'on a fixés ». Et c'est de là, en fait, qu'est parti le problème, cumulé avec un rôle, un peu ambigu des certaines agences de notation, celle-là même qui, avant, avait expliqué que tout allait bien, que les États-Unis étaient en parfaite santé, etc., etc., qui se sont mises à baisser la note de la Grèce... a affolé les marchés financiers, autrement dit les spéculateurs. Et du coup, la Grèce s'est retrouvée dans une situation financière très compliquée, avec des attaques qui n'ont cessé de se développer sur elle.
Alors je sais que tu n'es pas un spécialiste de ces questions-là, mais pour moi, un des acteurs nouveaux avec cette crise qui est actuellement en Grèce, c'est ces fameuses agences de notation. Je n'ai jamais entendu parler de ces gens-là, si ce n'est pour dire, tel membre du CAC 40 et tout machin. Il y a une certaine nouveauté. Alors, je ne sais pas si tu peux nous éclairer un petit peu sur qu'est-ce que c'est que ces agences de notation, mais il y a tout de même une certaine nouveauté de les voir apparaître et la place centrale qu'elles ont dans cette crise.
Je peux essayer d'éclairer. Elles existent depuis longtemps, les agences de notation, mais en fait, ce ne sont pas des agences de notation indépendantes. Ce sont des agences de notation qui regroupent différentes personnalités, certaines d'ailleurs issues des banques ou de grands groupes, et qui vont attribuer des notes en fonction de la prétendue bonne santé financière. Mais dans toutes ces agences, il y a un aspect qui manque considérablement dans l'évaluation d'un pays, c'est la qualité de vie, et la qualité notamment sociale, donc le bien-être de la population, l'intérêt général au profit de quelques-uns, autrement dit d'une minorité. Et c'est en fait en cherchant à satisfaire une minorité que l'on fait la pluie et le beau temps ensuite sur les marchés financiers qui, eux, vont se mettre à spéculer parce qu'ils pensent que tout va bien ou qu'au contraire, tout va mal. Donc, ils vont de nouveau s'enrichir. Donc, en fait, c'est un peu le, comment on dit déjà, le serpent qui se mord la queue ou le chat qui se mord la queue. Je ne sais plus lequel se mord la queue. Mais en tout cas, voilà.
Mister Zoophile.
Voilà. C'est dans cet état d'esprit.
Et justement, quand on parle de ces agences, mais qu'est-ce qui les finance finalement ? C'est eux-mêmes qui se financent ou c'est... Oula, la question piège, attention, parce que le grand problème...
Je crois qu'elles sont payées par des différentes...
comment c'est dire, les fonds de pension, est-ce que c'est...
Différentes sociétés qui peuvent être des fonds de pension, des multinationales, etc., pour évaluer les agences. Parce pour que évaluer
les États, les
entreprises, etc., pardon, oui.
Parce que les conséquences sont énormes.
Eh ben oui, mais c'est la question de la démocratie finalement qui est posée. Alors certains, par exemple le parti de la gauche européenne, proposent qu'il y ait une agence de notation indépendante qui soit créée, une agence de notation européenne qui regrouperait des personnalités politiques, des économistes, etc. C'est une piste qui est aujourd'hui envisagée par certains. Maintenant, est-ce que les médias en parlent assez ? Ça, c'est une autre question.
Alors, avant d'en venir à la crise actuelle, on nous a un peu... On voit régulièrement revenir dans les médias la question des impôts en Grèce et de ce sport qu'on nous décrit comme un sport national qui est d'échapper aux impôts. Qu'est-ce qu'il en est ? Ça recouvre une certaine réalité ou encore c'est le rideau de fumée qui justifie les mesures qui sont imposées ?
Ça recouvre une certaine minorité, une certaine réalité, et surtout c'est une minorité qui est déjà la plus aisée. Par exemple, un enseignant d'une école de journalisme m'expliquait il y a quelque temps que les étudiants venus de familles d'enseignants payaient des droits de scolarité dans cette école de journalisme. En revanche, elle avait des étudiants qui étaient des enfants d'avocats ou des enfants de médecins qui ne payaient pas de droits de scolarité parce qu'ils peuvent plus facilement échapper et qu'en plus les contrôles fiscaux sont un peu ambigus. Donc il y a effectivement une forme de réalité de cette question fiscale. Mais c'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème, je reviens là-dessus, c'est sur... la façon dont la Grèce a dû s'endetter à un certain moment et comment on a laissé faire alors que maintenant, ben, on rappelle un peu à l'ordre malgré la situation délicate et dramatique, plus exactement, que vivent les Grecs au quotidien.
Mais justement, au moment où la Grèce s'endettait, il y a eu des conflits au niveau de l'Union européenne, en particulier les Allemands qui ne voulaient pas aider les Grecs et les Français et qui étaient plus solidaires. Qu'est-ce qu'il en était exactement, en fait ? Est-ce qu'on a laissé la situation s'empirer ?
Je pense que l'Union européenne n'a pas réagi assez tôt. Ça, c'est évident. Et je pense aussi que certains n'avaient pas vraiment envie d'être solidaires. De toute façon, dans les faits, il n'y a pas de solidarité européenne aujourd'hui. Si par exemple, quand Mme Merkel a proposé que le FMI contribue, elle savait très bien que ce faisant allait être appliqué au sein de la zone euro. C'est déjà fait en Europe depuis quelques mois avec la Roumanie, avec certains pays baltes, etc. Mais en tout cas, qu'allait être appliquée au sein de la zone euro une politique du FMI qui a déjà montré ses fruits en Afrique dans les années 90, par exemple. C'est-à-dire appauvrissement de la population, développement du système D et... détérioration générale du niveau de vie d'une majorité de la population. Et c'est ce qui va se passer en Grèce. Dans le cadre du plan d'austérité que le gouvernement grec a signé, mais qui lui est pour partie imposé, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, donc de rentrer dans les clous du pacte de stabilité qui est complètement dépassé aujourd'hui, donc sous ce prétexte-là, par exemple, il va y avoir une réforme des retraites. 23% des plus de 65 ans en Grèce vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est énorme. Ça veut dire que quand on est dans la rue, un Grec sur cinq que l'on rencontre, qui a plus de 65 ans, un peu plus même, vit sous le seuil de la pauvreté. Et de toute façon, le taux de pauvreté en Grèce est de 20,1% en moyenne nationale. Donc on va faire passer en Grèce dans les jours à venir une réforme de la sécurité sociale qui a un volet retraite. Première chose, au lieu que ce soit les 5 meilleures années qui soient prises en compte dans le calcul final, ce seront toutes les années travaillées.
C'est ce qui nous attend. Hein.
C'est aussi ce qui nous attend. C'est pour ça que beaucoup de Grecs disent, sans doute à juste titre, qu'ils ne sont que les cobayes de ce qui va se passer au sein de l'Union européenne. Deuxième élément, alors que la retraite de base, la retraite minimale est de 380 euros, elle va être baissée à 360 euros. Troisième élément, il faudra 40 années de cotisation pour avoir le droit à une retraite à taux plein. Sauf qu'en Grèce, seul le taux d'emploi des femmes est de 45%, celui des hommes de 75%. Ce qui veut dire que chez les femmes, par exemple, la majorité d'entre elles, au cours de leur vie, ont une durée de travail extrêmement courte. Elles ne pourront donc jamais avoir une autre retraite que la retraite minimale. Et puis, petite anecdote un peu révélatrice de l'absence de volonté de faire des choix politiques différents. L'Église orthodoxe est très puissante en Grèce. Elle a des biens énormes. Si elle était imposée à 3% sur l'ensemble de ses biens immobiliers, l'argent qui rentrerait par ce biais dans les caisses de l'État serait le même que celui qui est économisé par la réforme des retraites. Alors que la réforme des retraites, elle, va conduire à une détérioration, comme je disais, du niveau de vie des Grecs, mais aussi, du coup, à des rentrées fiscales moins importantes. Et de nouveau, la spirale infernale, où, alors que l'État est censé se désendetter, il aura moins de rentrées, donc l'endettement, sans doute, lui, ne va faire que croître.
Donc une des solutions, c'est de taxer les pop, c'est ça ?
De taxer ?
Les pop.
Et les plus aisés, quand on est dans le port du Pirée, par exemple, on voit des yachts magnifiques de gens qui, pour certains, ne payent effectivement pas ou très très peu d'impôts. Il y a un problème aussi structurel. Mais c'est pas en imposant des politiques qui commencent par le petit bout de la lorgnette au lieu d'imposer, de développer par exemple de l'emploi pour les contrôleurs fiscaux, de créer des postes de contrôleurs fiscaux, de créer des postes dans la fonction publique qui vont permettre d'améliorer les enquêtes sur la réalité des faits. Donc c'est pas en prenant la voie inverse qu'on pourra améliorer la situation. Toujours dans le même ordre d'idées, j'ai rencontré plusieurs jeunes dans le cadre d'un article sorti dans l'Humanité Dimanche d'il y a 15 jours, si mes souvenirs sont bons. Plusieurs jeunes qui me parlaient de leurs conditions de vie, qui travaillent non déclarées dans les entreprises. Donc déjà, effectivement, par ce biais, il y a des rentrées qui n'existent pas dans les caisses de l'État. Mais pourquoi peuvent-ils travailler non déclarés, entre guillemets, parce que les inspecteurs de travail ne passent que le matin. Alors, ils sont employés le soir, après les cours. Ils sont employés le soir, mais pour pouvoir travailler, très souvent, que font-ils ? Ils sont coursiers dans des restaurants de souvlaki, tout ça, des restaurants grecs. Et ils ont besoin d'un scooter qui est à leur charge. Ils payent les frais d'essence, ils payent les réparations. C'est quand même un peu inquiétant par rapport au droit du travail. Personne ne dit rien parce qu'il n'y a pas non plus les ressources nécessaires au niveau de l'État pour que ces contrôles, qui sont primordiaux, soient effectués.
Parce que si on revient un peu dans l'histoire pas dans l'histoire grecque, mais en décembre 2008, on avait parlé de la génération des 700 euros qui sont tous les jeunes.
Ah, mais là,
qui...
c'est encore pire. Hein.
Oui, je sais qu'aujourd'hui,
le CPE est passé en Grèce.
Voilà.
Concrètement, il est passé. C'est-à-dire qu'ils pourront gagner 450 euros, si mes souvenirs sont bons, par mois, pour un contrat quasiment à temps plein. Déclaré mais sans payer des cotisations sociales, sans du coup assurance retraite, ce qui ne va pas améliorer la situation des caisses de retraite, mais ça c'est bon, un autre souci, sans cotisation chômage, c'est ce qui est en train de se produire, c'est une paupérisation considérable de la population à tous les âges et de la majorité, parce que la minorité, comme le faisait remarquer une dame dans une manifestation, la minorité n'est pas taxée et elle n'est pas prête à s'appauvrir.
Ο διάβολος κατέβηκε κάτω στο χολαργό και πρόλαβε το λάντα μου που ήτανε αργό. Χτυπάει το τζαμάκι από την πλευρά του Μηθριδάτη που σαν τον είδε να πετά του έφυγε το μάτι. Μια ώρα μας κυνήγαγε πάνω στη Μεσογείο και απόψε θα γινόταν η νύχτα των οργείων. Το κέρατο του έβαλε επάνω στη στροφή και άρχισε να ομιλεί με σουβλερή φωνή. Ελάτε εδώ είμαι σκουμπριά, ελάτε εδώ σκουμπριά. Σε μένα δεν θα πιάσει η παραπλολαϊά. Θα πάμε μία κόντρα στον ήμι σκουμπρισμό. Εδώ θα σας πατήσω πέκρα πάνω στο λαιμό. Θα βάλουμε ένα στοίχημα άμα θα κερδίσω εγώ. Για τα άλλα είμαι σκούμπρια, εγώ δεν τα μπορώ. Μα κι άμα εσείς κερδίσετε οι σκούμπρισμοι οι δυο, αμέσως σας χαρίζω χρυσό με καθαριό. Να τα δαχτυλίδια, τα δόντια τα χρυσά. Θα δώσω και στον πρίτα μη μυθάκι που φυσά. Αν όμως εγώ γίνω, το κέρδισμα το ίδιο. Σας δίνω στο μαρμίτισμο που πήρα το δρουλίο. Άκουσε να δεις, φιλέ μου διαβολάκι. Πολλά μας θα πες τώρα, θα τα πω κι εγώ λιγάκι. Το παίζεις ημισκόμβριο, μα είσαι από μήμα. Απέδειξε λοιπόν ότι δεν είσαι θύμα. Δεχόμαστε το στίχημα κι ας είναι αμαρτία. Γιατί είμαστε καλύτεροι σε όλη την κοινωνία. Άρχισε λοιπόν τους στίχους να ρημάρεις. Κι άμα είσαι με κερμάγκας, να ραγκαμαφάρεις. Είμαι ο Σαντάνιστερ και ο δαιμονιστής. Κρύβω και τα κέρατα κάτω από σβής. Είμαι εγώ ο διάβολος, ο δέκαρ διαβολέας. Έχω κάτι κύβιο των λέων της Νεμαίας. Νομίζετε δεν ξέρω από λάδι. Σας κάνω τη γανιά που είναι αλάδι. Ποτέ μου δεν μου άρεσε το κρέας το ομό. Και πάντα βάζω κρύβο, στο σέκερε ζωμό. Γι' αυτό να μην με πείτε, ποτέ σας κουτεντέ. Γιατί έχω τις γνώσεις, τους ελεμετέ. Μα τώρα πια βαρέθηκα να φτιάχνω την κοντό σου. Πακέτος να δοκιμάσω, να κάνω και ψαρό σου. Πακενά η ευκαιρία που έχω μες στα χεράκια. Ελάτε πιο κοντά, μικρά. Μη σας κουπ...
Voilà, de la musique de jeunes, pour parler des jeunes justement et des jeunes grecs en particulier avec Fabien Perrier qui est avec nous pour parler de la Grèce et du coup revenir un petit peu sur les émeutes de décembre 2008. Donc on sait que la cause de ces émeutes était au départ une bavure policière où un jeune avait été tué par les forces de police et à la suite de ça il y avait eu plusieurs jours de manifestations relativement agitées quand même. Avec bon, des destructions de biens, évidemment, des banques incendiées, ce genre de phénomène. Mais au-delà de cette cause première qui était la mort d'un jeune, on sentait quand même un espèce de malaise de toute une génération qui était aussi très politisée et qui était relativement soutenue par l'ensemble de la société. On voyait peu de condamnations, en tout cas comparativement à la France, où en 2005, certains quartiers s'étaient embrasés de la même manière. Il y avait une condamnation quasiment unanime, avec parfois une compréhension un petit peu condescendante d'une certaine frange de l'échiquier politique. En Grèce, on avait l'impression quand même que les gens globalement comprenaient que être jeune en Grèce aujourd'hui, c'était quelque chose de très compliqué.
Mais quand on gagne 750 euros par mois, qu'on commence à travailler à 28 ans et qu'on a 500 euros de loyer...
Oui, parce que c'est ça aussi que tu ne nous as pas dit. C'est que la vie est aussi chère qu'à Paris.
La vie, je vais donner un exemple. Le coût d'un abonnement téléphone internet illimité, c'est 29 euros. C'est les mêmes prix, sans vouloir faire de publicité pour qui que ce soit. C'est les mêmes prix à peu près qu'en France. Quand on regarde le prix du super samplon, 95, c'est 1,50 €. C'est les mêmes prix qu'à Paris, etc., etc. Donc le coût de la vie est aussi élevé. En revanche, là où je ne suis pas forcément tout à fait d'accord, c'est sur la politisation des jeunes en Grèce. Il y a une partie des jeunes engagés qui sont très politisés, qui vont dans des manifestations, qui vont dans des meetings le soir, qui se retrouvent et qui parlent politique entre eux au café. Le café est un lieu de vie essentiel, mais le café est d'ailleurs aussi cher qu'à Paris ou qu'en province. Je ne suis pas sûr que tous les jeunes aient une affiliation politique affirmée. D'ailleurs, quand on regarde les sondages qui ont lieu actuellement, ce qui gagne, c'est la désaffection politique, le désintérêt, plutôt que l'engagement. Et d'ailleurs, j'ai rencontré deux sociologues, une sociologue et un philosophe, qui m'expliquaient que, à leurs yeux, c'était le principal problème aujourd'hui. C'est qu'il y a un véritable mal-être, mais que les jeunes n'arrivent pas à franchir le pas, peut-être parce que l'offre politique n'existe pas, mais les jeunes n'arrivent pas à franchir le pas ensuite de l'engagement, du regroupement dans ce paysage politique éclaté dont on parlait tout à l'heure, pour essayer de faire changer les choses. Alors, ils parlent beaucoup sur Internet, ils parlent du coup politique, mais ils ne vont pas dans des partis militer où il y a un taux d'abstention des jeunes qui est aussi assez inquiétant en Grèce.
Et alors, du coup, à la suite, qu'est-ce qui avait donné ces émeutes qui avaient quand même duré plusieurs jours qu'est-ce que ça a laissé comme trace en Grèce et dans le mouvement social en général ?
La première trace que ça a laissé, c'était une forme d'abandon et qui montre aussi d'ailleurs qu'il n'y a pas eu un vrai, vrai relais politique, puisqu'au moment de Noël, ça s'est arrêté. Or, c'était un malaise très profond. Mais c'est peut-être un petit peu facile ce que je vais dire, mais je me demande si c'était pas en fait une première secousse avant un séisme à venir. Un séisme qui ensuite aura été largement amplifié par l'Union européenne, le FMI et le gouvernement du fameux social-démocrate Georges Papandréou. Quand les Grecs vont voir à l'automne prochain les baisses sur leurs salaires, je rappelle que déjà les 13e et 14e mois ont été supprimés dans la fonction publique, vont sans doute l'être dans la fonction privée, l'ont été pour tous les retraités. Donc baisse sur les salaires. Quand ils vont voir les prix augmenter, la TVA ne cesse de croître. Quand ils vont voir des classes surchargées pour leurs enfants, quand ils vont voir, puisque les budgets de la fonction publique sont diminués, j'ai rencontré par exemple différents proviseurs ou directeurs d'école qui m'expliquaient qu'ils avaient fait préparer leur rentrée de septembre sur une base horaire qu'on leur avait attribuée. Entre-temps, on leur a dit stop. On ne sait pas quelle base horaire vous allez avoir. Sous-entendu, ce sera beaucoup moins. Donc, classe surchargée, etc. Place dans les hôpitaux réduite. Quand ils vont voir tout ça et qu'ils ont déjà du mal à joindre des deux bouts, je répète que 20,1% de la population grecque vit sous le seuil de la pauvreté. J'ai du mal à imaginer quand même que tout puisse passer comme une lettre à la poste qui doit être privatisée selon le mémorandum que l'Humanité a publié le 7 mai et qui est d'ailleurs encore en ligne sur le site de l'UMA. C'était le mémorandum en fait signé par la Grèce qui contient l'accord sur le plan prétendu d'aide à la Grèce.
Oui, mais justement, quelles sont toutes les contreparties que l'État grec doit faire pour accepter que l'Union européenne et le FMI paient ses dettes ? Qu'est-ce qu'il doit faire finalement ? Quelles sont les conséquences sociales de cela ?
La première chose qu'ils doivent faire, c'est réduire leurs dépenses. Et quelles que soient les conséquences, on leur dit, vous baissez vos dépenses point par point. Alors, donc ils vont privatiser. Ensuite, on en a déjà un petit peu parlé, ils font un certain nombre de réformes. Donc réforme des retraites qu'on a développée, baisse des salaires, suppression de postes dans les écoles, dans les universités, hausse de la TVA. Voilà, c'est réduire le déficit public coûte que coûte. Avec derrière une absence complète de regard sur les effets que ça va produire, puisque on a parlé tout à l'heure de la question de l'impôt, mais quand on baisse les revenus, on baisse aussi les rentrées fiscales de la population. On a un certain nombre de petites entreprises. Le tissu industriel grec ou le tissu économique grec, c'est d'abord des PMI, PME, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries. Le salaire moyen en Grèce est de 1000 euros à peu près, avec un système statistique qui est, d'après les économistes, peu pertinent, mais ils pensent que c'est pas pas forcément faux de dire que c'est 1 000 euros le salaire moyen. Donc, toutes les PMI, PME qui ont déjà beaucoup de mal à vivre ou à survivre, avec les augmentations de la TVA, vont sans doute fermer. D'ailleurs, dans Athènes, il y a un certain nombre de rues plus ou moins commerçantes. On voit que dans la semaine, ces commerces sont plutôt vides. Et puis on voit, moi j'étais 3 fois déjà en Grèce, en février, en mars, en avril, on voit des magasins qui, en 3 mois, ont fermé leurs portes parce que la consommation va diminuer irrémédiablement.
Voilà un autre serpent qui se mord la queue, parce que c'est toujours le truc qu'on prévoit pas, c'est quand même que l'économie fonctionne aussi grâce à la consommation, et on imagine facilement que si les revenus des Grecs diminuent, si leur pouvoir d'achat, un mot bien à la mode, diminue, ils vont évidemment moins consommer, donc c'est quand même toute l'économie globalement qui va s'écrouler.
On en a déjà les preuves. En un an, le secteur du bâtiment, par exemple, on dit en plus quand le bâtiment va, tout va. le secteur du bâtiment a baissé de 30,2% entre février 2009 et donc février 2010. Le taux de chômage, alors ça c'est effarant. Le taux de chômage en février 2010 atteignait officiellement, j'expliquerai ensuite, 12,1%. En février 2009, il était de 9,1%. Et en décembre 2009, de 10,2%. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 points en un an de chômage. Et je dis, c'est intéressant de préciser que c'est un taux de chômage officiel, parce qu'en fait, quand on a moins de 45 ans, si on a travaillé une fois dans l'année, ensuite on n'est plus considéré comme chômeur. Déjà. Ensuite, pour être chômeur de longue durée, donc il faut avoir plus de 45 ans. Et puis, pareil, quand on a quelques missions de temps en temps, quand on a accumulé un certain nombre de jours, on est rayé des statistiques du chômage. Ce qui veut bien dire que le chômage réel est bien plus important que les statistiques officielles. Chez les jeunes, par exemple, il est estimé à 39% le chômage réel. Et en moyenne nationale, il est estimé à 17, selon les économistes, entre 17 et 19%.
Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'il y a quelques années, au moment où l'euro était mis en place, la Grèce paraissait comme une bonne élève, parce qu'ils avaient un taux de développement, un taux de chômage qui était plus bas finalement que la France. On les appelait, c'était le Club Med à l'époque.
C'était le Club Med, mais est-ce que c'est paradoxal quand on voit aussi qu'à certains moments, il a fallu tout faire pour rentrer dans les critères européens? Peut-être qu'il y avait quelques intérêts à embellir, ou tout du moins, à embellir, on va dire, la situation. Bon. Je pense que le plus important, c'est vraiment de voir quels sont aujourd'hui les effets sur les Grecs. Les retraités, par exemple, continuent souvent à travailler. Dans les rues d'Athènes, au marché, lors des manifestations, même quand il n'y a pas de manifestations dans les rues, on voit beaucoup de retraités qui poussent des petites carrioles pour vendre des pistaches, etc. D'autres qui vont vendre de l'ail tous les jours au marché. D'autres qui se procurent des produits chinois qui vont revendre. Alors effectivement, en plus, derrière, ça permet de dire mais il y a une économie parallèle. Mais pourquoi y a-t-il une économie parallèle? Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas vivre avec ce qu'ils ont. C'est ça le problème de base. Et au lieu d'améliorer cette situation, on ne va faire que l'aggraver. Σαν τον Αϊτό φτερούχαγε στη στράτα των καμαρών γειτονιά στα παραθύρια με χαμηλά τα μαύρα του τα μάτια λεβέντησε ροβολάγε λεβέντησε ροβολάγε στα μάτια
μάτια του ένα σύννεφο. Με στην καρδιά, καρδιά του σιδερό. Κυλάει το αίμα, σκέπασε τον ήλιο και ο χάρος ροβολάγε. Και ο χάρος ροβολάγε. Σφάλουν τα μάτια, μάτια και οι καρδιές. Σφάλουν τα μπα, τα παραθύρια. Με τα χυμάλιο χάροντας καβάλα και εκείνες χαμογελάγε και εκείνες χαμογελάγε. Ποιος κατεβαίνει σήμερα στον Άδη, ποιον κουβεντιάζει γειτονιά και να ταιριάζει, γιατί μου φάνε τα βουνά κι οι κάμποι. Λεβέντες ροβολάγε. Λεβέντες ροβολάγε.
Alors on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Les Oreilles Loin du Front, et ce soir on reçoit Fabien Perrier qui rentre d'une série de reportages en Grèce, et justement on a essayé de comprendre un petit peu qu'est-ce qui avait amené à la situation actuelle, mais on a vu quelques images des manifestations. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Qu'est-ce qui se passe dans la rue?
Je ne sais pas ce que vous avez vu en France, je ne sais pas ce qu'on a montré, parce que je n'étais pas là. Mais moi, ce que j'ai vu dans la rue, c'est d'abord un mouvement qui s'amplifie, un mouvement très calme, de gens en colère, mais qui manifestent très paisiblement, malgré les 3 morts le 5 mai dans une manifestation qui a regroupé 180 000 personnes dans les rues d'Athènes. Donc des gens qui ont envie de résister. D'ailleurs, un des slogans, c'est « résistance sociale ». Je pense que les gens qui sont dans la rue ne se trompent pas de message, ils ont bien compris qu'ils étaient en train de s'en prendre plein la figure et ne sont pas prêts à se laisser faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, un peu, à mon avis, intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'actions assez spontanées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se balader dans Athènes sans voir un moment une manifestation passée qui regroupe 500 personnes d'une mairie parce qu'il y a une réforme des collectivités territoriales et donc il va y avoir des suppressions de postes à Tire-Larigot. Donc on ne peut pas se balader sans voir des gens comme ça qui disent leur opposition à tout ce qui est en train de se passer, des gens qui prennent des micros pour décrypter le plan d'austérité et les conséquences sur la place de la Constitution. Devant la Voulie, l'Assemblée nationale grecque, vendredi dernier, par exemple, je vois un jeune homme avec un micro et des partitions à côté, donc je vais le voir, je pensais qu'il annonçait un concert, et je lui demande qu'est-ce que vous êtes en train de d'expliquer. Il me dit, mais qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Vous avez vu ce qu'on est en train de nous faire avaler, etc., etc. Il faut expliquer aux gens ce que ça veut dire réellement. Donc il y a vraiment une force très une lame de fond en fait très forte qui a envie de faire passer un message que je crois les médias grecs ne font pas bien passer. Le plan d'austérité est souvent présenté comme une forme de fatalité pour faire monter le fatalisme chez les Grecs. C'est pas tout à fait le cas. Il y a des options politiques différentes qui n'ont pas été choisies, mais je pense qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard.
Et du coup, la population qui est déjà dans une situation sociale très grave a envie de montrer quels vont être les impacts au quotidien de ce qu'ils sont en train de subir.
Alors qu'est-ce qu'ils font exactement dans la rue pour montrer ces impacts ?
Je viens de le dire. Ils manifestent, ils prennent des micros, ils se retrouvent, par exemple, et puis, petit point aussi intéressant, ils participent aussi aux élections syndicales. À Athènes, dimanche, il y avait les élections de la maison des syndicats. Ce sont en fait les délégués des entreprises qui vont voter. Il y a deux grands syndicats, deux grandes confédérations syndicales en Grèce. La GSE, qui est la confédération du secteur privé, qui regroupe à peu près 1,5 million adhérents, et la confédération du secteur public, ADEDI. Donc chaque membre est affilié à une branche politique au sein de son syndicat. Donc en gros, la branche du Koukoué, le parti communiste grec, la branche de Syriza, la coalition de la gauche radicale, dont la principale composante est le parti Synaspismos, dont on a parlé tout à l'heure, la branche du PASOK, le parti social-démocrate actuellement au pouvoir, et la branche de Nouvelle Démocratie, le parti de droite. Or, les élections ont en fait commencé il y a 14 mois. Et c'est le PASOK qui était alors dans l'opposition, qui entre-temps a été élu en octobre 2009 en expliquant qu'il allait améliorer les minima sociaux, qu'il allait améliorer les conditions de vie des Grecs, que ça allait être une forme de révolution sociale. Bon, on voit ce que c'est dans les faits, que le discours ne correspond pas forcément à la réalité et qu'il faut souvent se méfier de certains discours. Mais en tout cas, la branche du PASOK aurait dû remporter haut la main ces élections. En fait, elle n'a gagné, que je ne dise pas de bêtises, qu'un siège. Et ce sont les autonomes et donc les autonomes qui ont gagné des sièges et la droite qui en a perdu. Alors voilà, c'est-à-dire ça veut dire que derrière, les délégués, y compris ceux qui étaient affiliés au PASOK, sont en train de se séparer ou d'avoir des doutes, en tout cas, sur la force politique que représentait dans les discours leur parti. Et ça, c'est vrai aussi chez les militants. Par exemple, à Athènes, à Patras, où je suis allé donc à 300-250 km d'Athènes, j'ai rencontré un certain nombre de militants. Certains ont quitté le PASOK il y a quelques années parce qu'ils avaient conscience de cette inadéquation entre les discours et l'action concrète lorsqu'ils avaient le pouvoir. D'autres sont en train d'en prendre conscience et disent « on ne peut pas continuer à soutenir un parti qui ne respecte pas ses engagements électoraux » et qui, en plus, a fait passer, il y a 10 jours, c'était un vendredi, alors que l'Assemblée était à peu près vide, un amendement au projet de loi voté la veille, donc un jeudi, le jeudi 6, ça doit être un vendredi 10, un vendredi 7, si je ne me trompe pas.
Il y a des chances.
un amendement pour pouvoir prendre par décret toutes les mesures qui concernent l'accord Union européenne-FMI. C'est-à-dire qu'il y a une forme de coup de force, pour ne pas dire coup d'État, comme l'ont titré de nombreux journaux grecs, un coup de force pour faire passer des mesures qui vont avoir des impacts directs sur la population, mais en dehors de tout débat parlementaire, parce que certains députés, y compris au sein du PASOK, sont en train de dire leur opposition. Mais quand on dit son opposition, en Grèce, on est exclu. Et 3 députés ont été exclus le jeudi 6 mai après s'être abstenus. Ils n'ont même pas voté contre. Ils se sont déclarés présents, n'ont pas voté. Donc ils se sont abstenus. Le soir même, ils étaient considérés exclus de leur parti. Donc on n'a pas le droit de s'opposer.
Si l'opposition est impossible au sein du Parlement, est-ce qu'à l'extérieur du Parlement, l'opposition politique essaie de s'exprimer ?
Je n'ai pas dit qu'elle était impossible au sein du Parlement. Il y a deux grands partis qui font valoir une opposition au quotidien. Le Parti communiste grec et Syriza, la coalition de gauche. Mais en dehors aussi, elle s'exprime. Maintenant, dans les manifestations, pour revenir sur ce sujet, ce qui est vrai, c'est d'une part qu'elles sont extrêmement encadrées. Quand on manifeste dans Athènes, on a sur sa droite et sur sa gauche, quand on est au milieu du cortège, des CRS tout au long, quasiment, de la manifestation. Hein. Donc les débordements sont...
Eux, ils n'ont pas réduit le budget.
Pas encore. Ça va venir, on va retirer... Non,
je vais raconter une petite anecdote, mais un jour, j'avais envie de parler un peu comme ça avec des gens qui n'ont pas forcément beaucoup la parole. Et je vais voir un policier qui était sur sa moto et je lui dis, là, ça doit être dur. Et il me fait, oh oui, mais encore, c'est rien par rapport à ce qui va venir. Et je lui dis, ah, et puis ça doit être dur pour vous parce que quand même, les lacrymos partout, c'est fatigant. Il me dit, oui, mais vous savez, hein, moi, ils m'ont coupé mon 13e et mon 14e mois. Si je pouvais, j'irais dans la rue avec eux. C'est-à-dire que l'opposition, elle est y compris chez les représentants du pouvoir. Pour revenir aux lacrymos et à la façon dont les manifestations sont encadrées, elles sont aussi décomposées, les manifestations. Le 5 mai, la manifestation qui a regroupé 180 000 personnes dans les rues d'Athènes et des milliers d'autres, y compris dans les îles grecques, en Crète, dans d'autres petites îles, alors il y avait quelques centaines là pour le coup, les manifestations, au bout d'un moment, quand elles sont trop importantes, que fait-on ? Eh ben, on les scinde. Ce qui permet de réduire le nombre de manifestants, puisque ceux qui sont en queue de cortège n'ont pas le droit de partir. Et quand ils veulent partir quand même, parce qu'ils sont là pour manifester, eh ben, ils se prennent des lacrymos. La moindre altercation reçoit comme riposte de la part des forces de l'ordre ce que je pensais être des lacrymos, mais qui sont en fait des gaz chimiques, m'a-t-on dit. J'ai pas vérifié l'information, mais on va quand même la livrer. Et du coup, on pleure, on a du mal à continuer à marcher, mais on fait tout pour faire taire l'opposition.
Pourtant, il y a des mouvements autonomes qui sont assez violents et qu'on voit tout le temps dans les G8 avec des Grecs qui sont quand même assez mobilisés et assez sportifs.
Les mouvements
en tout cas, d'un point de vue militant.
Les mouvements autonomes sont importants, mais ne sont pas les plus importants en Grèce. C'est d'abord beaucoup des anarchistes, mais ce n'est pas eux qui remplissent les rangs. C'est les deux grands partis d'opposition, les branches politiques qui correspondent à ces partis dans les syndicats, et puis les syndicats qui sont en train d'être débordés par leur base. J'ai fait un entretien avec Yanis Panagopoulos, qui est le président de la GSE, par ailleurs membre de la direction nationale du PASOK, donc le parti au pouvoir. Et très souvent en Grèce, le président de la GSE devient un jour ou l'autre dans sa carrière le ministre du Travail quand le PASOK est au pouvoir.
Donc tu as interviewé le futur ministre du Travail.
Je doute qu'il devienne ministre du Travail, parce que quand il a voulu le 5 mai tenir son discours, il a essuyé des mots que je ne me permettrai pas de citer... sur une antenne. Et deuxièmement, il a essuyé des sifflets qui, malgré la puissance de la sonorisation, ont largement couvert son discours, à tel point qu'ensuite, lui, il n'a pas pu rejoindre les rangs de la manifestation. Il avait été agressé il y a quelque temps, il a pris cette excuse, mais derrière, ça montre bien que la base n'en peut plus de se faire manipuler comme il a essayé de le faire.
Donc tu veux dire qu'il y a une possibilité de transformation de cette crise financière en véritable crise sociale, avec une possibilité d'émeute et de choses, je sais pas, comme en Argentine, où les gens finalement ont pris le pouvoir d'une certaine façon à un certain moment donné.
Je suis pas devin. mais ce qui est vrai, c'est que là, la chaleur arrive. Très forte. Et quand on manifeste, qu'on marche et qu'il fait très très chaud, qu'en plus on se prend des gaz sur la figure,
c'est pas forcément évident. Deuxièmement, arrive la Coupe du Monde chez les gens qui sont fans de foot. Bon. Troisièmement, arrivent les grandes vacances. Et quel que soit le pays, les grandes vacances, c'est quand même un moment où on essaie un petit peu de se reposer et pas forcément de manifester, même si aujourd'hui, ou hier plus exactement, le président du syndicat de la fonction publique a dit que le mouvement ne se tairait pas cet été. En tout cas, à l'automne, il est possible que les choses, je crois, je l'ai dit tout à l'heure, hein, à cause de la visibilité, la réalité que qu'emprunteront ces mesures à ce moment-là pour les citoyens grecs, il est possible que le mouvement prenne une ampleur importante.
Alors on voit généralement dans ce type de situation, où évidemment, les cadres préexistants ont tendance à exploser. Juliette citait le cas de l'Argentine, où on a vu des exemples d'entreprises récupérées au moment où ils ont dévalué la monnaie, mais aussi des formes d'organisation politique un petit peu nouvelles. Tu sens, de ce que tu as pu voir, les cadres organisés de la gauche être débordés et pour aller vers quoi ?
Je ne sais pas si les cadres de la gauche sont débordés. Je pense que les cadres syndicaux, les directions syndicales sont en train d'être débordées. Et c'est vrai que les formes de protestation sont en train de changer. Par exemple, les enseignants qui vont essuyer sans tarder une réforme qui va conduire à des licenciements, une réforme qui va conduire à plus d'élèves dans les classes, une réforme qui va conduire du coup à l'augmentation du nombre de cours privés l'après-midi, donc à une forme de d'inégalité sociale développée, puisque ces cours privés sont bien entendu payants et chers. Les enseignants ont manifesté, entre guillemets classiquement, mais ils ont aussi monté des tentes devant la Voulie, devant l'Assemblée nationale, pour témoigner de ce qu'il vivait et aussi pour faire passer un message aux Grecs. Ils ont envahi les plateaux télé, ils essaient dans d'autres boîtes, par exemple chez Olympic Air, qui est l'ancienne compagnie nationale d'aviation, ils ont occupé l'entrée du siège à Athènes et bloqué en fait l'avenue qui est devant ce bâtiment pour aussi sensibiliser à leurs questions. Donc oui, il y a des formes nouvelles qui sont en train d'être éclatées. Troisième chose qui est intéressante sur ce plan, sur les formes nouvelles, c'est par exemple que de plus en plus les fédérations de branches, donc comme j'ai expliqué, il y a deux grandes confédérations syndicales qui elles-mêmes ont des fédérations de branches, sont en train de déclarer des grèves de 24 ou de 48 heures reconductibles. On va faire grève pour 48 heures et en fonction d'accords négociés ou pas, on est prêt à repartir en grève. Ce qui veut bien dire que les Grecs en ont plus que ras-le-bol, parce que quand les salaires sont déjà petits, qu'on a du mal à joindre les deux bouts et qu'on en est à ce point qu'on préfère sacrifier quelques jours, c'est que derrière, il y a des questions fondamentales qui sont en train d'être posées.
Est-ce qu'il y a un plan B aux solutions que proposent le FMI et l'Union européenne ?
Il y a des plans B. Il y a des solutions. Maintenant, est-ce qu'elles sont proposées en Grèce ? Pas forcément par tout le monde. En tout cas, pas par le PASOK. Je sais, par exemple, que, puisque j'étais là-bas, que l'humanité a lancé une pétition qui vise à solliciter de la banque centrale qu'elle prête à 1% aux États. J'explique rapidement. Aujourd'hui, quand un État a besoin d'argent, d'emprunter, comme la Grèce, à tel point d'ailleurs que la Grèce emprunte aujourd'hui pour rembourser ses intérêts, donc quand la Grèce emprunte...
Et emprunte à 10%.
Justement, quand la Grèce emprunte, elle emprunte à des banques privées ou à des assurances, enfin à des très grosses structures financières. Ces mêmes structures financières, banques privées, banques commerciales, vont emprunter à 1% à la banque centrale. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est mais faisons en sorte qu'un État puisse emprunter directement à 1% et voir du coup le coût de son emprunt baisser au quotidien et la population un petit peu désétranglée, je ne sais pas si ce mot existe, mais en tout cas, alléger un peu la charge sur le citoyen. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quand même que dans tous les pays d'Europe, on peut voir ce qui se passe aujourd'hui au Portugal, on peut voir ce qui se passe en Espagne. On peut entendre ce que dit le cabinet de Nicolas Sarkozy, qui commence à s'inquiéter du fait que la France pourrait voir sa note baisser par les agences de notation, que tous ces États donc sont en train de subir les assauts des agences de notation et des spéculateurs parce qu'ils ne sont pas tout à fait dans les clous du pacte de stabilité. Tout ça montre que le pacte de stabilité n'a plus de raison d'être aujourd'hui, et c'est sans doute la première chose sur laquelle il faut revenir. Et puis un autre plan B, c'est quand même de s'interroger sur la pertinence d'une Union européenne qui joue en faveur de banques et non pas en faveur de l'intérêt général. Jusqu'alors, à mes yeux, la politique, c'est d'abord de travailler pour l'intérêt général, de travailler pour des citoyens, et pas de tout mettre en œuvre pour leur couper les vivres et les plonger dans une pauvreté sans nom.
Alors juste, tu évoquais une des solutions de tout à l'heure qui était de taxer l'église orthodoxe, de taxer les popes. Est-ce que c'est... Il n'y a que toi qui as cette idée ou est-ce que c'est quelque chose qui est porté socialement?
Je ne dirais pas que c'est mon idée. Hein. Moi, c'est des économistes qui m'ont, qui m'ont dit ce que ça allait rapporter. Non, c'est porté, par exemple, Syriza, la coalition de la gauche, autour de, dont la principale composante est Sinas Pismos, a fait un certain nombre de tracts et est entendu par des citoyens. Mais je crois qu'un des éléments essentiels est aussi de revenir à ce mois d'octobre 2009 qui a porté le PASOK au pouvoir. Papandréou, le fils de Papandréou père, Andreas Papandréou, qui était lui-même Premier ministre il y a quelque temps, a expliqué qu'il allait tout améliorer en Grèce. Et il y avait une forme de ras-le-bol en Grèce de l'action de Nouvelle Démocratie, le parti de droite qui était au pouvoir pendant quelques années auparavant. Du coup, les gens sont un peu aujourd'hui déstabilisés parce qu'ils ont voté et puis ils s'interrogent. Est-ce que la politique peut encore changer les choses? Mais je crois que les partis à la gauche du PASOK sont en train de tout mettre en œuvre pour montrer que des solutions alternatives existent. Ils portent, comme je disais, la proposition de 3%, de taxation de 3% des biens de l'Église orthodoxe. Ils expliquent aussi que le budget de la Grèce... 4,2% du PIB de la Grèce est utilisé pour les dépenses militaires. Plus gros budget en Europe. Plus gros budget en Europe, mais qui sert, reconnaissons-le, d'abord la France et l'Allemagne, qui sont les deux principales fournisseuses, les deux pays qui font, voilà, principaux fournisseurs d'armes, porte-avions,
et chars. Je crois que dans les contreparties de l'aide de la France, il y a une certaine pression non négligeable sur l'achat de nouveaux chars français.
C'est ce qu'on dit.
En tout cas, c'est les rumeurs.
C'est ce qu'on dit.
Στο στόμα και δυο σπασμένα φτερά. Μου έχουν στήσει παγίδα γιατί δεν έχω πατρίδα. Είμαι χάμω και τα μάτια μου γεμίσαν με άμμο. Κεράκι στο χώμα, μα πολεμάω ακόμα. Θα λιώσω ποιον τολμήσει να κάνει ένα βήμα μπρος. Πριν πεθάνω, θα βάψω το χώμα με κόκκινο χρώμα. Μείνε μακριά μου απόψε, όλα είναι εχθρός. Περιχειωμένος από ίενες και αιώνια. Με κάποιους από αυτούς πετούσαμε μαζί πριν χρόνια. Όσοι δίνανε τα πάντα, κάποτε να μου μιλήσουν. Στέκονται τριγύρω μου τώρα να με διαλύσουν. Είμαι γεράκι στο χώμα, αρνούμαι να πεθάνω ακόμα. Τα νύχια μου πυγμένα θα μείνουν σε κάθε πτώμα. Με θέλουν πληγωμένο, πεσμένο στο χώμα. Μείνε μακριά μου, είμαι γεράκι ακόμα. Black Hawk Down! Γεράκι με στο χώμα. Φτερά σπασμένα και το χώμα βαμμένο μέμα. Black Hawk Down! Κι ας πετούν ακόμα. Εκεί ψηλά ελεύθεροι στον ουρανό το δώμα. Black Hawk Down! Κι όσο αντέχω ακόμα. Θα είμαι θάνατος από ψηλά για κάθε πτώμα. Black Hawk Down! Γεράκι με στο χώμα. Φτερά σπασμένα και το χώμα βαμμένο μέμα. Είμαι γεράκι.
μαλάκι στο χώμα. Κάποιοι με ψάχναν καιρό. Ψάχνουν να βρω μέσα στη πουή τη μάχη νερό. Μα μόνο αίμα και φόβο στον εχθρό μου το βλέμμα. Θέλω τον πρώτο που θα έρθει για να νιώσει την τρέλα. Ψάξε την τρέλα στα μάτια μου μέσα. Βλέπω θολά γιατί όλα γύρω μου έχουν πέσει χαμηλά. Δεν έχω κάτι να χάσω αφού δεν έχω παρόν. Με περικύκλωσαν αγγέλε και οικογένειε δηλών. Πατάω σε πτώματα που έχω τελειώσει. Μείνε μακριά, αδερφέ, η μνήμη μου με έχει προδώσει. Θέλω να πετάξω πως πετούσα παλιά. Τόσο ψηλά που εδώ κάτω όλα μου μοιάζανε μικρά. Όλα μικρά τριγύρω, τα ματωμένα μου φτερά νεκρά. Τα ομορφότερα όνειρά μου γίνανε φρικτά. Πως εύκολα πεθαίνω, μάλλον ήταν ψέμα. Όποιος με θέλει νεκρό, θα χύσει αίμα. Τέρμα, Black Hawk Down. Κεράκι μες στο χώμα, φτερά σπασμένα και το χώμα. Βαμμένο μέμα, Black Hawk Down. Κι ας πετούν ακόμα, εκεί ψηλά ελεύθεροι στον ουρανό το δώμα. Black Hawk Down. Κι όσο αντέχω ακόμα, θα είναι θάνατος από ψηλά για κάθε πτώμα. Black Hawk Down. Κεράκι μες στο χώμα, φτερά σπασμένα και το χώμα. Βαμμένο μέμα, Black Hawk Down. Κεράκι μες στο χώμα, φτερά σπασμένα και το χώμα. Βαμμένο μέμα, Black Hawk Down. Κι ας πετούν ακόμα, εκεί ψηλά ελεύθεροι στον ουρανό το δώμα. Black Hawk Down. Κι όσο αντέχω ακόμα, θα είναι θάνατος από ψηλά για κάθε πτώμα. Black Hawk Down. Κεράκι μες στο χώμα, φτερά σπασμένα και το χώμα. Βαμμένο μέμα.
Voilà, les oreilles loin du front, on est toujours avec Fabien Perrier pour parler de la crise grecque. Et au début de cette crise, justement, on a vu apparaître un acronyme journalistique qui est le PIGS, pour parler de Portugal, Italie, Grèce et Espagne, donc pour l'Espagne. Ce qui pose du coup la question de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un risque que la Grèce soit exclue de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a un risque de scission de l'Union européenne, puisque justement le pacte de stabilité est plus respecté et que cette espèce de gangrène pourrait gagner d'autres pays? Donc on parle évidemment de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, mais aussi la France pourrait être un des prochains États dans la ligne de mire des spéculateurs. Qu'est-ce qui va se passer du coup pour cette Union européenne là, qui est un peu malmenée en ce moment?
Elle est malmenée parce qu'elle est sur des bases qui ne sont pas tout à fait saines. C'est le premier point. Ensuite, l'Union européenne, si elle avait réellement travaillé à certains moments en faveur d'une amélioration du bien de tout à chacun, elle serait sans doute moins malmenée. À titre d'exemple, entre 2008 et 2009, quand il y a eu la crise financière dont on subit toujours aujourd'hui les conséquences, plus de 1000 milliards d'euros ont été débloqués pour alimenter les banques, pour éviter que les banques sombrent dans la faillite. Ça n'a posé de questions à personne. On l'a fait. Mais aujourd'hui, parce que les États se sont endettés pour sauver un système bancaire qui est d'abord un système privé qui nourrit une minorité, on tape sur la majorité. Et d'ailleurs, ça, c'est une des questions qui se posent. Est-ce qu'il faut réellement conserver un système bancaire complètement privé? Est-ce qu'il ne faut pas penser à l'émergence d'un pôle financier public européen ou d'un pôle financier dans chaque État, mais avec des connexions européennes? Moi, je ne suis pas là pour faire des propositions, mais c'en est une qui est aujourd'hui sur le tapis et qui me paraît avoir un certain sens. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas répondu à la question: est-ce qu'il va y avoir un éclatement de l'Union européenne? Parce qu'aujourd'hui, personnellement, je pense qu'on ne peut pas le savoir. C'est un, à mes yeux, et je ne parle qu'en mon nom, c'est un risque d'éclatement de l'Union européenne, parce que plus elle éclatera ensuite, plus on pourra dire que finalement c'était une construction qui n'avait pas lieu d'être, et la spéculation va reprendra plus fortement sur les États indépendants. Mais je crois qu'un certain nombre de personnes, de personnalités sont en train de réfléchir, de débattre pour faire naître de cette crise un système différent. Par exemple, je sais que le directeur du journal L'Humanité...
Si tu touches 5 euros à chaque fois que tu as cité le nom de L'Humanité dans cette émission...
Putain, t'as gagné ta soirée.
Tu peux combler le déficit grec, hein.
Non. C'est pas vrai. C'est parce que je note que ce journal, alors qu'il est le seul à avoir envoyé aussi longtemps quelqu'un en Grèce... était malheureusement très peu repris, et je me demande si finalement on n'a pas envie en France de taire le fait que ce qui est en train de se passer en Grèce va se passer, et en train de se passer d'ailleurs aujourd'hui en Espagne et au Portugal, et va se passer demain en Italie et après-demain, voire demain aussi en France. D'ailleurs, ça s'est déjà produit en Allemagne. Les lois Hartz IV,
que sont-elles si ce n'est des lois qui, par le système, la détérioration du système assurantiel, assurance chômage notamment, donc des lois qui permettent la libéralisation complète du marché du travail, qui ont pour conséquence de voir un appauvrissement des gens qui les subissent, etc. Donc tout ça pour dire que l'humanité, quand même, plus 5, même pas, que l'humanité organise avec le député européen Patrick Le Garrigue un colloque les 4 et 5 juin à la Mutualité où viennent des personnalités de tous les horizons politiques, mais des gens qui ont envie de réfléchir justement à des alternatives à la crise. Viennent des syndicalistes grecs, viennent des syndicalistes anglais, allemands, viennent des personnalités politiques. Pervenche Berès, par exemple, qu'on ne va pas accuser d'être une dangereuse gauchiste, hein, membre du Parti Socialiste, bon. Je ne sais plus tous les gens qui... Mais allez voir sur le site du journal... www.humanite.fr allez voir le contenu de ce colloque et vous verrez qu'ils sont nombreux, ces gens dont c'est la fonction, les personnalités politiques, les syndicalistes, à réfléchir à des issues. La vraie question, c'est a-t-on envie d'une part de les entendre et pour qu'ils puissent être entendus, de les relayer leurs propositions.
Voilà. On avait encore plein de questions sur cette autour de cette Grèce, de cette crise en Grèce. Je pense qu'il faut, ça sera l'occasion peut-être la prochaine fois que tu reviens de Grèce de venir nous donner la suite de tes impressions et de ce que tu as pu recueillir comme information. Donc Fabien Perrier, merci beaucoup. Je rappelle juste, puis je vais le dire à mon tour, que l'Humanité garde en ligne l'ensemble de
tes articles. Je te donnerai 5 €.
Garde en ligne l'ensemble de tes articles, c'est un des seuls sites sur lequel on il y a pas de système payant pour aller retrouver toutes les, y compris donc tout ce que tu nous as raconté, je me trompe pas, nous as raconté, on peut retrouver l'ensemble de tes articles quasiment au jour le jour sur le site de l'UMA.
Ouais, sauf ces articles qui sont parus dans l'Humanité Dimanche, mais on peut acheter l'Humanité Dimanche, ce qui nous fera beaucoup de bien aussi.
Merci beaucoup.
On approche, Chico, attention, enclenche les rétrofusées.
Allez, quand on est à Du Monde, on fait de l'ouvrage et ce soir, autour des micros, autour des boutons, on retrouvait l'impitoyable agence de notation de la Radio Libre. Alors, pour appliquer le plan de rigueur au sein de la cabine de réalisation, on retrouvait Aude pour couper dans le budget bière et alcool, tel un boucher du FMI qui coupe un budget social grec. On retrouvait Juliette et puis pour réprimer les manifestations d'auditeurs insatisfaits, on retrouvait le Robocop des plateaux, c'est-à-dire Raphaël. On vous abandonne dans les bras de Claudie et Claudia puisque Antanan arrive. Ciao.